And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this?
A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy.
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds.
DirecTV has the most MLB games. Visit DirecTV.com. Claim based on total games offered on national and regional sports networks with choice package or higher. Availability of RSNs varies by zip code and package. High-speed internet service required. Terms and restrictions apply.
Customers are rushing to your store. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business, take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. shopify.com/theathletic.
Le sport athlétique vous est présenté par Game Time, votre nouvelle application de référence pour mettre la main sur des billets de dernière minute. Le prix des billets baisse toujours juste avant le début des matchs. Et parce que Game Time surveille les prix en temps réel parmi des milliers de fournisseurs, est capable de vous trouver les meilleures aubaines de dernière minute avec des rabais pouvant aller jusqu'à 60%. Le Canadien a deux matchs à domicile la semaine prochaine. Il reçoit la visite des Islanders mardi et il va y avoir une cérémonie spéciale pour célébrer les capitaines de l'équipe. Et jeudi, c'est la visite de Nathan MacKinnon et de l'Avalanche du Colorado. Alors, c'est deux bonnes occasions d'utiliser Game Time. Il n'y a pas juste des billets pour des événements sportifs sur l'application. On peut aussi trouver des concerts de musique ou des pièces de théâtre. Par exemple, il y a Camila Cabello qui s'en vient à la Place Belle au début décembre. Ça pourrait être un cadeau de Noël parfait pour ma nièce, ça. L'application est simple, rapide et c'est facile de naviguer à travers. Vous pouvez la télécharger sur Google Play ou encore sur l'App Store pour vous dénicher des billets de dernière minute ayant jusqu'à 60% de rabais. Bienvenue au Super Athlétique, c'est le vendredi 29 novembre 2019. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Arpin, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va y aller ad lib aujourd'hui, pas de planification et tout,
non.
Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. À quel point le Canadien, avec une séquence de 6 revers de suite, est dans la merde?
Ben, c'est clair qu'ils le sont. Non seulement c'est une séquence de 6 défaites de suite, 5 de ces défaites sont arrivées au Centre Bell contre des équipes qui vraisemblablement feront pas les séries. C'était vraiment la portion de leur calendrier le plus favorable à créer un petit peu de distance avec les autres équipes qui vont probablement auraient pu leur rattraper quand le calendrier devient un peu plus difficile pour le Canadien en décembre, janvier, février, mars et avril.
C'est encourageant.
Le reste du calendrier représente beaucoup plus de défis que le mois de novembre présenté. Et les Canadiens ont tout simplement, non seulement qu'ils ont gaspillé cette opportunité-là, mais ils ont créé ils sont en crise totale en ce moment parce que ils savent pas quoi faire. C'est le problème dans leur jeu se trouve dans leur tête collective. C'est pas un joueur qui prend des mauvaises décisions sur la glace. Il y en a une dizaine, même une quinzaine que je peux pointer le doigt et dire que mentalement et en termes d'intelligence de jeu, ce gars-là, il fait défaut. Ouais. Et c'est un problème quand c'est tellement répandu partout dans l'équipe. Et c'est difficile à avoir une solution quand c'est le cas pour tellement de joueurs.
Ouais, on dirait que toute l'équipe est déprogrammée, a oublié comment jouer au hockey de la bonne façon. Tu sais, on entend souvent les joueurs dire « play the right way », jouer de la bonne façon, mais je pense que le Canadien avait une certaine recette, il sait ce qu'il doit faire pour connaître du succès, mais en ce moment, l'exécution est pas du tout au rendez-vous. À commencer par les meilleurs joueurs de l'équipe, le premier trio, le trio de Philippe Danault à l'heure actuelle, connaît de grandes difficultés durant la séquence de 6 revers. Je regardais les statistiques avancées tout à l'heure. En termes, si on regarde sur des ratios de 60 minutes, les chances de marquer qu'on dit très dangereuses, à haut danger, ben le premier trio du Canadien figure en bas de la liste chez le Canadien. C'est ce qui est tout à fait atypique parce que normalement c'est un trio qui réussit à garder quand même les choses favorables la rondelle de l'autre côté.
À ce niveau-là, c'est un des meilleurs trios de la ligue généralement. Tout un peu découle d'eux autres. Il y a des autres trios qui suivent quand les autres ont une bonne présence pour commencer le match ou commencer chaque période, ce qui n'est pas le cas dernièrement. Mais tu sais, c'est ce que ça démontre, cette séquence de défaites, là, c'est à quel point le Canadien, c'est une équipe qui est basée sur un système qui est efficace. Et quand ce système-là fait défaut, quand ce système-là n'est pas respecté, les problèmes de talent brut de l'équipe, commence tu commences à les voir plus souvent. Tu sais, c'est une équipe qui est comme meilleure que les joueurs qui sont rassemblés. Tu sais, better than the sum of their parts en anglais, je sais pas comment dire en français, mais
c'est meilleur que la somme de leurs parties, absolument. Ouais, c'est la même chose.
Ben, c'est ça. Puis, alors c'est une équipe qui est fort dépendante sur le système de jeu qui l'emploie, puis en ce moment, le système de jeu, non seulement que c'est pas respecté, mais c'est comme complètement l'opposé de ce qu'il tente de faire, ce qui est en train de se produire. Tu sais, les surnombres, on parle tellement des surnombres dernièrement, mais c'est à cause du fait que le Canadien souvent se retrouve quatre hommes fond dans le territoire adverse avec des joueurs qui sont derrière eux, et c'est juste pas comme ça que le Canadien joue. Et la raison est peut-être aussi qu'ils sont pas très efficaces de se rendre de leur zone en zone adverse, qui d'habitude ils font très bien, traverser d'une zone à l'autre avec position de la rondelle puis avec vitesse. Plus souvent que non, maintenant on voit des dégagements en fond de territoire pour aller le chercher, et puis des batailles pour la rondelle. Tu sais, le jeu de position du Canadien est plus là. Et c'est un peu ça l'identité de l'équipe.
Et quand ils essaient de transporter la rondelle en zone neutre, ils sont beaucoup plus proches de la bande qu'en temps normal.
Ils sont pas proches l'un de l'autre.
Non, il y a
ils sont
ça aussi.
Complètement. Il y a pas de support du rondelle. C'est vraiment pas. C'est pour ça que c'est tellement difficile à expliquer la situation actuelle, parce que ils jouent complètement l'opposé de ce qu'on est habitué de voir de cette équipe-là.
Ouais. Et ce qui est paradoxal en même temps, c'est que tu veux freiner le plus tôt possible, le plus rapidement possible, une série de défaites qui déjà pourrait être très coûteuse pour leur chance de participer aux séries éliminatoires. Et sauf que tu veux agir pour qu'il y ait un résultat rapide, sauf que par quel bout tu t'y prends pour pouvoir corriger quelque chose qui est aussi systémique, qui est aussi généralisé, alors que c'est pas dire ben là il y a un petit élément ici là, tu sais, c'est pas comme resserrer une vis là pour faire tenir un meuble comme il faut. Il y a beaucoup de vis à resserrer et d'autres à desserrer, et il faut que ça se fasse en un temps record parce que là le temps presse. Le Canadien va jouer en fin de semaine deux matchs en deux jours. Samedi après-midi, il reçoit les Flyers de Philadelphie. Le lendemain soir, il était à Boston. Ça pourrait vite dérailler, cette histoire-là.
Non, honnêtement, la saison du Canadien, tu pourrais carrément dire, tu sais, je veux pas exagérer, mais sincèrement, je pense que la saison du Canadien pourrait se jouer cette fin de semaine, en fin de semaine,
ouais,
qui s'en vient. 8 défaites de suite et toutes les séquelles que ça laisserait, même s'il gagne un match la semaine prochaine, le fait que ça, dès dimanche, le calendrier du Canadien devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus exigeant, difficile. Il y a beaucoup plus de matchs sur la route. Il y a 7 matchs de suite sur la route qui entourent le Noël ou la pause de Noël, ce qui est tout le temps une période difficile pour cette équipe-là.
Oui,
non seulement le voyage dans l'Ouest canadien, mais le voyage en Floride, habituellement, il y a des choses qui vont un peu mal. Malgré le fait qu'ils ont plein de partisans qui sont là chaque année. Alors, c'est ça, il faut que ça arrête cette fin de semaine-là, sinon, ça va être difficile à voir où ça va terminer ou comment ça va terminer.
À l'intérieur des deux prochaines semaines, le Canadien va avoir trois séquences de deux matchs en deux soirs. Claude Julien nous a dit tout à l'heure qu'il comptait utiliser Keith Kincaid dans un des deux matchs, que ce soit contre Philadelphie ou Boston.
Je dois croire que c'est Boston. Hein? Moi, je dirais que c'est Boston, probablement.
Ah oui?
Qu'est-ce que t'en penses?
Il a tellement
besoin de gagner contre Philadelphie là, que ça serait difficilement... En tout cas, je sais pas, mais...
Ben écoute, c'est parce que l'impression que ça me laisse, c'est que le Canadien est très, très hésitant à donner le filet à Keith Kincaid. J'ai pas l'impression que l'organisation déborde de confiance envers lui en ce moment. Et tu te dis, ben là, si le deuxième match, un match où le Canadien risque d'être plus fatigué, il est sur la route contre un adversaire que Claude Julien veut vraiment battre, ben c'est peut-être le meilleur moment pour remettre ton meilleur gardien entre les deux. Je dis pas qu'en ce moment, Carey Price joue bien, là, mais en principe, ça devrait être lui qui te donne les meilleures chances de gagner.
Oui. Absolument, je suis d'accord. En principe, oui. En temps normal, je pense que ça serait clair que Kincaid aura les Flyers samedi, puis Price contre les Bruins dimanche.
Oui.
Mais en tout cas, je pense que Claude a laissé un petit doute de ce qui va se passer parce qu'il a dit que c'est ça mon plan.
Ouais.
D'utiliser Kincaid en fin de semaine. I plan to, ce qu'il a dit. Alors, c'est pour ça que ça me fait penser que Price va aller contre Philadelphie, puis s'il perd, Price va aller encore contre Boston. Tu sais, c'est comme.
Okay.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est.
Mais
la façon dont Price joue en ce moment, c'est peut-être pas d'une grosse conséquence, anyway.
Non, mais c'est parce que quand tu dis en temps normal, t'aurais vu Price contre Philadelphie en temps normal, c'est ça?
Non, en temps normal, j'aurais vu Price contre Boston.
Contre Boston, c'est ça. Bon, ben moi, je suis de l'avis que même si les choses vont pas bien, c'est préférable d'avoir un entraîneur qui ne déroge pas de ce qu'il ferait en temps normal, puis de poser des gestes qui sont en fonction de la panique, parce que c'est pas comme si Keith Kincaid est nécessairement une bien meilleure option qu'un Carey Price qui, clairement, n'est pas au sommet de sa forme. Alors, tu sais, à défaut, je comprends qu'il veut provoquer un électrochoc ou quoi que ce soit, mais tu veux pas non plus poser des gestes de panique puis donner l'impression au...
Mais il l'a déjà fait. En jouant Price contre les Sénateurs l'autre soir, il l'a déjà fait. Ce que tu es en train de décrire, là...
Comme un geste de panique.
C'est un geste de panique.
Ben, je sais pas si c'est un geste de panique, mais c'est un geste de non-confiance envers son gardien numéro 2.
C'est une des pires équipes de la Ligue. Tu joues deux matchs en deux soirs. C'est clair qu'un de ces deux... C'était clair à mes yeux, à moi, que Kincaid aurait dû avoir le filet ce match-là. Alors, mais c'est déjà quelques défaites de suite. Je suis convaincu que si Price aurait gagné à Columbus, Kincaid aurait eu le filet contre les Sénateurs la semaine passée. Alors, c'est pour ça que je dis que ça se peut qu'on voit Price, peut-être que j'ai tort, là, mais ça se peut qu'on voit Price demain. Puis si c'est une autre défaite, ça se peut qu'on voit Price encore dimanche.
C'est
un reflet du niveau d'urgence de cette équipe-là. Tu sais, c'est comme, on n'est même pas rendu en décembre. Ça va être le 1er décembre, quoi, dimanche.
Oui.
Puis déjà, c'est comme s'ils jouent des matchs de vie et mort. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment... Puis si c'est le cas, et je pense que ça va... Déjà, ça fait en sorte que ça va être le cas... C'est que dès maintenant, ils vont jouer des matchs comme ça le reste de la saison.
Oui.
Et à quel point est-ce qu'une équipe est capable de maintenir le niveau d'urgence nécessaire pour faire ça pendant, quoi, 4 mois?
Oui. Non, ça, je sais. C'est difficile. Puis, il faut. Tu sais, tous les points que tu as perdus parce que tu as connu une série de défaites, il faut que tu ailles les récupérer ailleurs. Fait que, techniquement, il faudrait que, en principe, là, que le Canadien aligne une série de victoires semblables de 5 ou 6 matchs pour pouvoir récupérer ces points-là. C'est pas évident que le Canadien est en mesure de faire ça. Malheureusement, on les voit capables de perdre 6 matchs de suite. Mais est-ce qu'ils sont capables de gagner 6 matchs de suite? D'habitude, on le voit, le Canadien, en début de saison, partir en Lyon. Puis quand il aligne des victoires, c'est souvent en tout début de saison qu'il le fait. Mais une fois que les choses sont mises en branle, que le niveau de jeu se met à augmenter par tranche de 20 matchs...
Ça arrive quasiment jamais en décembre.
Alors, c'est pas... Ça va être une grosse tâche. Puis dans tout ça...
Check la semaine prochaine. Tu sais, c'est comme... Tu vas à Boston dimanche, t'as les Islanders qui roulent super bien. Tu peux faire l'argument que c'est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. C'est mardi. Colorado, qui va probablement avoir un Rantanen qui revient.
Ouais.
C'est jeudi, puis après le lendemain, c'est à New York, une équipe qui vient de...
d'enfoncer un coup de poing.
Ouais, c'est ça, de donner un coup de poing plein en face en effaçant un match 4-0 qui gagne.
Mais tu vois, regarde...
C'est un défi, là. C'est, ouais. Le défi commence à devenir vraiment... vraiment gros pour cette équipe-là, puis ça s'en vient vite.
Mais tu vois, la visite des Islanders, moi, je trouve que quand on regarde la situation du Canadien, puis qu'on dit, c'est pas une bien bonne équipe, puis tu regardes de quelle façon, tu regardes leur alignement, etc., puis ils sont pas... C'est une équipe moyenne, etc. En principe, les Islanders, c'est la même chose.
Ouais.
Et même que, je te dirais que sur papier, c'est même une équipe qui est probablement inférieure aux Canadiens. Sauf que ils appliquent tellement bien leur système qu'ils sont en mesure d'aller chercher des victoires. Écoute, leur position au classement en fait foi, tandis que le Canadien s'éloigne de son identité et à ce moment-là, ben, se retrouve lui rapidement là, à avoir de l'eau dans le gaz, comme on dit. Sauf que je pense que les Islanders peuvent être une bonne inspiration à ce niveau-là, parce que quand tu restes proche de ton système de jeu puis de la formule qui te convient, à ce moment-là, ça peut bien fonctionner. Les Islanders, écoute, à l'heure actuelle, là, sont deuxièmes dans la section métropolitaine. Ils ont 34 points. Ça les place à la grandeur de l'association Est au troisième rang.
Ouais.
Donc, c'est pas si mal, là.
Non, c'est ça, mais c'est...
C'est, la,
c'est ça que les Canadiens font pas, puis c'est difficile. C'est pour ça que, dans le fond, tu sais, tu regardes les pistes de solution en ce moment. OK. Première piste de solution, c'est que Carey Price retrouve son jeu, puis en voilà.
Ouais.
Tu sais, ça, c'est possible. Ça se peut que ça arrive, parce qu'il l'a déjà fait. Alors, il n'y a personne qui serait choqué que Carey Price, tout d'un coup, vole un match. Mais, en temps actuel, en regardant la façon qu'il joue, non seulement les buts qu'il donne, mais surtout certains des arrêts qu'il effectue, où il laisse un rebond, où il ne l'aurait pas laissé avant, où il n'est juste pas l'être d'être lui-même, c'est difficilement envisageable de voir que Carey Price va aller voler un match à Boston dimanche, disons, par exemple.
Ouais.
L'autre piste de solution, c'est que t'es vétéran, prends ça en main, puis fais en sorte que le système soit respecté et que les mauvaises décisions deviennent des bonnes décisions, puis montre un peu de leadership, puis prends l'équipe.
Ça ne fait pas un claquement de doigts, par exemple.
C'est ça l'affaire, parce que, à cause du fait que le problème, c'est le fait qu'une équipe qui est comme un peu basée sur le fait qu'ils ont des joueurs intelligents ne joue pas d'une façon intelligente en ce moment. Alors, comment tu règles une manque d'intelligence de ton équipe? C'est pas quelque chose de tactique, c'est pas quelque chose que tu peux montrer plein de vidéos puis dire, ah, écoute, c'est juste c'est des mauvaises décisions.
Ouais.
T'es pas à la bonne place sur la glace. Il y a deux joueurs qui font sur un joueur adverse quand t'es supposé pas le faire.
Un défenseur qui va appuyer l'attaque, puis il n'y a aucun attaquant qui prend sa place, qui couvre.
Il y a aussi des circonstances autour de ça. Ce que je suis certain devient plus frustrant. Contre les Devils, jeudi soir, à un moment donné, Ben Sherratt, il a appuyé l'attaque, il est allé chercher un rondel, il a réussi à se rendre là en premier, puis il a tiré au but. Il espérait que Kotkaniemi voyait ça, puis aussitôt qu'il a vu Ben Sherratt tirer au filet, il a foncé vers le filet pour aller chercher le retour. Sauf que le tir de Ben Sherratt a touché le côté du filet puis a rebondi direct dans le coin.
Ouais.
Alors, à ce moment-là, Kotkaniemi dans sa tête, c'est que Ben Sherratt va tirer puis va retourner aux lignes bleues. Puis Ben Sherratt, dans sa tête, dit « Moi, je suis le plus proche du rondel en ce moment, alors je vais aller le chercher. » Alors, les deux sont allés le chercher.
Exact.
Et ça donnait que ça créait un surnombre de l'autre côté, puis les Devils ont marqué un but. Alors, tout le monde peut dire que Ben Sherrod n'aurait pas dû faire ça.
Mais Kotkaniemi assez tard aussi.
Kotkaniemi assez tard aussi. Oui. Et les circonstances ont fait en sorte que peut-être que ni l'un ni l'autre en est tard, parce que dans le fond, ils ont bien pensé, ils ont pensé faire la bonne chose, mais finalement, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont pris certaines choses pour acquis. T'sais, Kotkaniemi a pris pour acquis que Ben Sherrod allait tirer puis retourner à la ligne bleue. Et Sherrod a pris pour acquis qu'il y avait quelqu'un qui allait faire un repli quand il voyait très bien que Kotkaniemi avait déjà foncé vers le filet. Alors, les deux ont pris des décisions qui étaient séparés des actes de l'autre. T'sais, ils n'ont pas vraiment aperçu qu'est-ce que l'autre faisait avant de prendre leur décision à eux. Alors, comme entraîneur, honnêtement, je ne sais pas comment Claude Julien va être capable de régler un problème où c'est les décisions qui font défaut. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux remplacer un joueur ou tu sais, ça change rien de voir un joueur qui prend les mauvaises décisions, puis le mettre sur un autre trio, puis bencher lui, puis faire toutes les choses que les coachs font d'habitude quand ça va mal. En ce moment, il y a tout le monde qui est pas capable de penser le jeu en ce moment. Puis c'est un problème qui est très difficile à régler parce que l'équipe est axée sur cet aspect-là.
Absolument. Puis tu as des joueurs qui sont des piliers dans les succès du Canadien, des gars comme Philippe Dano ou Jeff Petrie, que tu vois, eux, sont affligés par ces problèmes-là à l'heure actuelle, puis la qualité de leur décision a décliné. Dans le cas de Petrie, c'est vraiment inquiétant. Il connaît parmi ses pires moments, probablement depuis qu'il porte l'uniforme du Canadien. Du moins, je te dirais, dans les trois dernières années. J'ai posé la question tout à l'heure à Claude Julien, puis il me dit, ben écoute, ce genre de choses-là se produit à peu près à chaque année. Mais
c'est assez surprenant de voir dire ça.
Oui.
Mais c'est vrai, il a raison.
Oui.
Je m'attendais pas qu'il l'a dit.
Mais il connaît. Écoute, c'est clair que Jeff Petrie, c'est un gars qui connaît des hauts et des bas, là.
Ouais.
Mais les bas qu'il vit en ce moment, ça faisait un bon bout de temps qu'on l'avait pas vu connaître autant de difficultés que ça. Puis ça arrive à un moment où, écoute, le Canadien a tellement besoin de lui. C'est un gars qui joue 24 minutes par match environ.
C'est leur défenseur numéro un.
Ouais.
De plusieurs façons, depuis le début de la saison, il a pris le rôle du défenseur numéro un. Tout le monde s'attendait que le retour de Shea Weber en pleine santé, qu'il commence sa saison. Puis je dis pas que Shea Weber jouait mal, là, mais le rôle du défenseur numéro un, depuis très tôt dans la saison, ça revient à Jeff Petrie. Puis quand ton défenseur numéro un joue de la façon qu'il joue depuis 2-3 matchs, là, tes chances de gagner sont ça devient un problème, tu sais, quand si disons que Charles Hudon prenait des mauvaises décisions partout, ce serait pas si grave. Le gars, il joue 10 minutes par match, tu le mets sur le banc, c'est pas le fin du monde. Mais quand tes meilleurs joueurs, tes meilleurs éléments, les gars qui jouent le plus de minutes, c'est eux autres qui prennent ces décisions-là, puis ils se retrouvent sur la glace aussi souvent qu'ils se retrouvent là. C'est là que ça devient très un grand problème, parce que sans tes meilleurs éléments qui jouent à leur mieux, tu peux pas espérer gagner quand t'as une équipe qui est basée tellement sur qui a peu de talent de premier plan.
Non, c'est
dans
ça.
L'alignement.
Écoute, parlant de joueurs de talent, un des attaquants de premier plan de cette équipe-là, c'est Max Domi. Je regarde, tu sais, depuis la blessure de Jonathan Drouin, on parlait lors d'un épisode précédent de notre podcast que la blessure à Drouin faisait en sorte que le Canadien se retrouvait dans un format davantage à deux trios offensifs puis deux trios en soutien, plutôt que de pouvoir espérer développer trois trios offensifs. Ça augmente la pression sur Jesperi Kotkaniemi de pouvoir faire du troisième trio une plus grosse menace offensive, puis je suis pas sûr qu'il soit dans l'état ou rendu au point où il peut charrier son propre trio. Donc, dans ces circonstances-là, ça augmente encore plus les responsabilités du trio de Max Domi de pouvoir faire en sorte que le Canadien n'est pas strictement restreint à s'en remettre à l'unité de Philippe Dano. Et à ce niveau-là, je trouve que Max Domi donne pas un rendement qui est très encourageant, parce que c'est sûr que son unité en première période face aux Devils a connu, je dirais, probablement trois bonnes chances de marquer. Mm-hmm. Par contre, il commet un revirement qui mène à un but, et après ça, il disparaît complètement de la circulation.
Tu sais. Ouais.
C'est inquiétant, parce que ça a beau ne pas être un joueur parmi les plus âgés de l'équipe, son statut au sein de l'équipe fait en sorte que lui aussi doit prendre une forme de leadership, puis doit au moins sur la glace prendre les choses en main puis créer de l'offensive. Alors parce qu'on le sait qu'en partant, ce sera pas nécessairement le roi de la défense. Alors, s'il n'est pas le roi de la défense, bien, il faut au moins qu'il s'assure qu'il va y avoir des points qui vont être mis de l'autre côté.
T'sais. Honnêtement, en ce moment, vraiment le seul joueur que tu peux dire, le seul joueur qui a joué plus que 2 ans dans la Ligue nationale sur l'équipe en ce moment, que tu peux dire que il fait sa job, il le fait bien, il joue d'une façon efficace, il fait pas trop d'erreurs, c'est Arturi Lekkonen.
Exact.
C'est le seul gars.
Il y a personne. Je hochais de la tête depuis que t'as commencé ta phrase, parce que je savais où est-ce que tu t'en allais.
Ben, mais oui. c'est un problème. T'sais, tant mieux pour Arturi Lekkonen. C'est bien qu'il joue bien, là, mais c'est le seul gars qui roule depuis plusieurs matchs.
Oui. Ben écoute, il est l'attaquant chez le Canadien qui a le plus de buts au mois de novembre. Alors que j'ai des collègues qui aiment l'appeler Monsieur 6% parce qu'il marque normalement avec un taux de conversion de ses lancers de seulement 6%. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui...
Tes amis ont besoin de dérabis, là.
Oui, hein?
T'as des amis qui l'appellent ça?
Non, des collègues.
Oh, pas des collègues.
Oui, ouais, des collègues sur la galerie de presse.
Ouais, OK, non, désolé.
Voilà. Non, mais mes amis, c'est...
Il choisit des noms différents, je pense.
Mais enfin, on parlera pas de ça. Mais j'ai pas d'amis. ouais. Et donc c'est ça. Et puis, mais malgré tout, écoute, tu vois son jeu à tout point de vue à l'heure actuelle, je pense, c'est irréprochable. Mais effectivement, il peut pas être le seul à donner le ton, à avoir le bon pas. Il manque énormément de passagers dans ce train-là à l'heure actuelle.
Ouais, absolument. Puis dans le fond, dans son cas. Tu sais, il est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une drôle de journée. Les Canadiens ne se sont pas entraînés vendredi. Les Canadiens décident de sortir Jonathan Drouin pour parler en plein milieu d'une crise totale. C'est particulier comme... Ben, en fait,
c'est une manœuvre de diversion. Hein?
C'est une manœuvre de diversion qu'on a déjà vue de la part de cette équipe-là. Et pendant que Jonathan Drouin parlait, Arthur Lekkonen est sorti puis il s'est assis parce que... Il s'est ou porté volontiers de parler ou il était dit qu'il faut qu'il parle. Mais une chose, alors j'ai allé le voir pendant qu'il était seul, puis la seule chose qu'il a dit, parce que moi j'étais comme ça, comment ça se fait que, tu sais, cette équipe-là est reconnue pour le fait qu'il donne pas grand-chose en transition. Oui. Les chances qu'il donne sont souvent des chances qui viennent après que l'équipe adverse s'établit en zone offensive. Et une fois que ça arrive, l'équipe, le Canadien n'est pas une super bonne équipe défensive. Claude Julien, on l'entend tout le temps parler du fait qu'il faut tuer les jeux. C'est ça qui fait défaut chez le Canadien. Alors, quand l'équipe adverse est capable de s'établir en zone offensive ou zone défensive du Canadien, c'est pas leur force. Mais leur force, d'habitude, c'est que les jeux de transition, les chances de marquer en transition sont rares. Dernièrement, c'est tout ce qu'ils donnent. Ils donnent juste des chances de marquer en transition. On se dit, comment ça se fait qu'une équipe... Comment tu vas d'une équipe qui n'en donne jamais à une équipe qui en donne rien que ça? Et lui, c'est un gars intense, comme tu connais. Là.
Arturi, oui.
C'est un gars très intense, il est compétitif. Et il s'exprime difficilement dans ces circonstances-là, ce qui est pourquoi je trouvais ça drôle qu'il sort parler aujourd'hui. Mais il a dit qu'il faut qu'on... Tu sais, we have to trust each other. Il faut qu'on...
Qu'on se fasse confiance les uns les autres.
Qu'on se fasse confiance les uns et les autres.
Ouais.
Et c'est ça aussi que Claude Julien a mentionné. Tu sais, fais ton travail. Fais pas le travail de l'autre, fais le tien, puis aie confiance que ton coéquipier va faire son travail à lui. Et si tout le monde fait leur propre travail... on va se promettre à gagner.
Oui.
Et ça se voit. Tu sais, des fois, ça se voit dans certaines situations où il y a quelqu'un qui essaie de faire un impact qui est pas nécessaire et ça cause d'autres problèmes.
Ben, quand tu parlais au début en disant, ben, écoute, c'est compliqué de pouvoir régler les problèmes du Canadien quand tout le monde a l'air d'avoir son jeu déréglé, mais tu peux pas corriger les erreurs mentales de ton coéquipier.
Ouais.
Le seul mental que tu peux gérer, c'est le tien.
C'est ça.
Alors, effectivement, c'est probablement le point zéro de cette correction là, c'est que chacun s'attache ou en fait s'attarde seulement à ce qu'il peut donner lui-même, puis à sa façon d'aborder le match, puis au niveau de concentration qu'il va laisser, puis à la façon dont il dépense ses énergies, parce que c'est ça, à partir du moment où est-ce que tu quittes ta position parce que t'as t'as pas confiance que ton coéquipier va aller faire ce qu'il doit faire, ben à ce moment-là, toi, tu te sors de position et tu te retrouves à avoir deux gars qui ne sont pas au bon endroit, puis tu ouvres la porte à l'adversaire, comme ça a été si souvent le cas face aux Devils. Écoute, les Canadiens ont beau avoir concédé 6 buts, ben 5 en présence d'un gardien. En plus de ça, il y a quand même quelques chances, je dirais des chances de qualité Canada de fantasy qui ont donné aux Devils. Puis il a fallu un arrêt miraculeux de Carey Price en toute fin de deuxième période pour empêcher que le score soit encore pire que ça. Sauf que ça peut pas continuer parce que, écoute, en ce moment, ce qu'on voit du Canadien, c'est une équipe qui offre un visage complètement contraire à son habitude, parce que d'habitude, j'ai l'impression que depuis que je couvre les Canadiens, c'est la même chose. Le Canadien est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts et qui doit s'assurer d'avoir une défensive étanche pour pouvoir gagner des matchs à bas pointage, parce que comme les coachs l'ont expliqué au fil des ans, nous, se lancer dans du hockey de type run and gun, on n'est pas équipé pour faire ça. On sait ce qu'on doit faire pour gagner, etc., etc. Sauf que là, en ce moment, le Canadien marque des buts à profusion, mais n'est pas capable d'empêcher l'adversaire de marquer. Mais là, je dois vraiment prendre une pause puis dire à tout le monde que j'ai faim. OK, l'heure du midi a passé, j'ai pas dîné, je sais qu'il y a rien dans le frigo chez nous. Puis après avoir fini d'enregistrer le podcast, ben j'aurai pas le temps d'aller faire la commande. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'application DoorDash sur mon téléphone, puis je vais me commander à manger. Comme ça, je suis sûr que je serai pas pris à manger de la pizza congelée ou bien un bol de nouilles déshydratées. Je sais pas encore si ça va être du thaï ou des sushis ou bien du poulet portugais, mais en allant sur l'application DoorDash, ben tu choisis ce que tu veux manger à partir d'une foule de restaurants, puis ensuite le repas t'est livré chez vous. C'est pas juste à Montréal. DoorDash est présent dans 3300 villes en Amérique du Nord. En ce moment, nos auditeurs peuvent obtenir 5$ de rabais sur leur première commande de 15$ ou plus quand ils téléchargent l'application DoorDash et qu'ils entrent le code promotionnel support. C'est 5$ de rabais sur votre première commande quand vous téléchargez l'application DoorDash à partir du App Store et que vous entrez le code promotionnel support. OK? N'oubliez pas, le code c'est support pour avoir 5$ de rabais sur votre première commande. Fin de la parenthèse.
Puis en parlant, tu mentionnes le gros arrêt de Carey Price contre les Devils, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler un peu du meilleur joueur du Canadien en ce moment. Ben pas en ce moment, mais en général. Définitivement pas en
ce moment. Du meilleur gardien au monde.
Du meilleur gardien au monde, Carey Price. Alors, on a vu, il y avait une drôle de scène dans le vestiaire du Canadien après le match contre les Devils. Oui. Tout le monde attendait parler à Carey Price. En coulisses, on a entendu un joueur sacrer super fort,
oui,
en frustration. Puis tout d'un coup, tout le monde était, tu sais, on était informé qu'il fallait qu'on sorte le vestiaire. On comprend pas pourquoi. Et Carey Price était déjà parti. Ben, il était en train de partir.
Oui, ben écoute, on comprend pas pourquoi. C'est parce que normalement, il faut que les gens comprennent que dans le rituel ou la routine de couverture ou d'interview dans le vestiaire, normalement après un match, on termine par le gardien de but. Une fois que tout le monde a interviewé les autres joueurs, les joueurs de position. Alors, Carey Price est souvent le dernier à être interviewé. Comme tu dis, tout le monde était attroupé autour de son casier. Puis il y a quelqu'un qui est un représentant du Canadien qui dit ben il y aura pas de Carey ce soir. Et au même moment, c'est ça, on entend ce cri là,
ouais,
avec un low boom. Tu sais, j'avais l'impression que ça venait du gymnase avec un gars qui venait de lâcher des poids là.
Ouais.
Et on sort, c'est ça. Donc on sort du vestiaire et au même moment, Carey Price quitte en même temps que nous. Et là, ça c'est étrange parce que Carey Price subit des traitements d'habitude après les matchs. Il y a beaucoup d'entretiens, de massages, etc., qui fait en sorte qu'il est un des derniers à quitter le Centre Bell les soirs de match.
Et qui est très souvent, peut-être une heure après la fin du match. Ouais. J'ai déjà vu Carey Price, le truck de Carey Price sortir du Centre Bell jusqu'à une heure après la fin du match. Et là, c'était comme 15 minutes après la fin du
match. Écoute, je suis même pas certain qu'il a pris sa douche, ou sinon, il a fait toute sa routine pour quitter le plus vite possible à la vitesse que le faisait Tomáš Plekanec à l'époque.
Ouais.
Tomáš Plekanec, lui, c'était comme Clark Kent se transforme en Superman.
Ouais, pas mal, là. Ouais, c'était vite, là.
Ouais.
Alors, ça me dit beaucoup, tu sais, comme, parce que dans le fond, pendant le match, on a vu Carey Price fracasser son bâton. Des signes évidents de frustration. On a aussi vu le meilleur de Carey Price. Tu sais, l'arrêt sur Paul Mary en fin de deuxième, qui, en passant, aurait été un autre but en fin de pré-période pour cette équipe-là.
Ouais.
Et aurait dû l'être, de la façon qu'on joue défensivement là-dessus, mais Carey Price l'a empêché. Mais c'est clair qu'il y a peut-être deux buts qu'il aurait dû avoir, qu'il a donné. Tu sais, c'est compliqué dans son cas, c'est toujours compliqué dans son cas, mais dans la situation actuelle, c'est beaucoup plus compliqué parce que le nombre de surnombres qui sont donnés contre lui sont beaucoup trop élevés, mais en même temps, tu t'attends à ton gardien d'effacer quelques-uns de ses surnombres. C'est l'air que chaque fois qu'il y a un surnombre, c'est dans le filet.
Ouais.
Et quand ton gardien, c'est le joueur le mieux payé de ton équipe, c'est le leader de ton équipe, c'est ton vedette, c'est ton Sidney Crosby, comme Marc Bergevin l'a déjà décrit. Tu t'attends qu'il soit capable d'effacer quelques-uns de ses erreurs, mais ça arrive pas en ce moment.
Non.
Alors, c'est quoi le juste évaluation de son jeu, étant donné que le Canadien joue tellement mal devant lui, mais que lui non plus, il fait pas la différence qu'on est habitué de voir de sa part?
Ouais. Ben, écoute, quand tu te fies sur ton gardien pour connaître du succès, en disant c'est notre pierre angulaire, c'est notre meilleur joueur, tu lui donnes un mandat ou une responsabilité qui est plus grande qu'aux autres joueurs. Je pense que tu fais bien de rappeler la comparaison avec Sidney Crosby qu'avait fait Marc Bergevin. Alors, dans les circonstances, tu t'attends pas seulement à ce que ton gardien fasse les arrêts que le gardien moyen ferait. C'est-à-dire que qu'il soit en mesure de faire de maintenir un taux d'efficacité moyen, disons quoi, ouais. 905 ou quoi que ce soit, qu'il soit en mesure d'arrêter les rondelles qu'il voit. Il faut qu'il fasse plus que ça, parce que et ça implique entre autres de réparer les erreurs de ses coéquipiers, mais il faut qu'il fasse l'arrêt de plus qui le distingue du gardien moyen.
Ouais.
Alors, et c'est la norme, je pense, à laquelle Price a habitué un peu tout le monde depuis son arrivée dans la Ligue nationale, ou du moins depuis 2010, on va dire, 2011. Sauf que on était tellement habitué à ça, et je pense que le Canadien a eu des équipes qui étaient bien inférieures à celles qu'il présente en ce moment, en termes de personnel, qui réussissait quand même certaines années à atteindre les séries, certaines années à les manquer, strictement sur la base de Carey Price qui multipliait ses arrêts de plus-là qu'il faisait par rapport au gardien moyen. En ce moment, c'est clairement pas le cas. Alors, on se retrouve devant un gardien...
C'est le gardien moyen.
Ben oui, absolument. Ouais. Il y a rien qui le différencie que si tu mettais Mackenzie Blackwood devant le filet, que si tu mettais Alexander Georgiev, c'est un gardien comme un autre.
Ouais.
Alors, et qui va se faire battre sur des deux contre un, alors, tu demandes pas à ton gardien de but des responsabilités surhumaines de dire tu dois nous faire des miracles à tous les matchs, tu dois faire 40 arrêts systématiquement soir après soir ou arrêter des chances de marquer à haut danger à plus finir. Sauf que, il y a des arrêts un peu plus constants qui doivent être faits pour permettre à ton équipe, surtout au moment où le reste de l'équipe est déréglé, de dire ben ça va commencer avec moi ou je vais être le dernier rempart, mais ce qu'on va rebâtir, ça va aussi commencer par moi.
Le problème que j'ai dernièrement, c'est que tu regardes les trois derniers matchs. Le match contre New York, il donne le but gagnant qu'il aurait dû avoir, puis il était reconnaissant du fait que oui, ça se peut que je l'ai pas vu, mais je pense que sans dire, il reconnaissait à un certain point qu'il aurait dû l'avoir. C'était un mauvais but. C'est le but qui a tué les chances des Canadiens.
Ouais.
Contre Boston, début de deuxième période, David Pastrnak, c'est dans l'enclave, oui, mais c'est un lancé que Carey Price doit avoir. C'est une équipe, particulièrement à cause du fait que, en toute fin de première période, Jeff Petrie a donné ce qu'il a donné à Brad Marchand. Il fallait avoir cet arrêt-là à 8 secondes la deuxième période. Ça tuait son équipe.
Absolument.
Puis, contre New Jersey, je sais que c'est une échappée. Mais le tir de Miles Wood, le Carey Price, quand il est en pleine forme, il arrête ce tir-là, puis il avait besoin de le faire, puis il y avait
beaucoup d'espace entre ses jambières, hein?
Beaucoup d'espace entre ses jambières, puis c'est juste, c'est démoralisant. Il donne plus de buts maintenant qui sont démoralisants qu'il donnait par le passé. Par le passé, il faisait des arrêts qui étaient inspirants.
Oui.
Puis là, c'est des buts qui affectent le moral de son équipe. Alors, tu sais, c'est quand même le leader de cette équipe. Je pense que, tu sais, Shea Weber est là aussi, mais Carey Price s'est vu comme le pierre angulaire de toute l'organisation, en fait. Il faut que ça se règle, mais encore une fois, c'est une répète de l'année passée. Alors, est-ce que chaque année, en mois de novembre, on va commencer à voir un Carey Price qui perd ses repères un peu, qu'il faut qu'il va checker le vidéo avec Stephen Wade, puis se met à,
ben, écoute,
se met à jouer comme un gardien moyen.
Ouais, parce qu'il y a deux ans, il y a eu sa pire saison en carrière. L'année dernière, on peut dire, parce que le mois d'octobre, ça avait été moyen. L'équipe gagnait en dépit de lui.
C'est une copie conforme de cette année.
Exact. Ouais. Alors, c'était... Donc là, ça fait trois années de suite où, dans les deux premiers mois de la saison, tu n'as pas ton meilleur joueur au niveau où tu t'attends de l'avoir, puis au niveau où le DG a misé sur lui en disant, ben nous, on va continuer d'aller de l'avant, on va faire, au lieu de reconstruire, on va avoir notre reset, etc., parce qu'on a Weber puis on a Price, alors on est correct. Alors, il mise sur un gardien qui, dans les deux premiers mois de la saison, n'est pas à la hauteur. Donc, c'est problématique parce que dans les deux premiers mois de la saison, c'est suffisant pour te creuser un trou maintenant dont tu seras pas capable de te sortir. Puis Carey Price, là, je m'excuse, mais l'année dernière, à compter du mois de décembre, il a été époustouflant.
Ouais.
Et même à ça, ça n'a pas été suffisant, là.
Non, c'est ça. Mais et encore une fois, ça va prendre ça. Puis, le 15e veut participer en série, là, rendu avec le trou qu'ils ont déjà creusé. Peu importe ce qui arrive en fin de semaine. Il peut gagner les deux matchs en fin de semaine, le trou est là quand même.
Ouais.
Ça va prendre un Carey Price qui devient tout d'un coup le meilleur gardien de la Ligue pendant les quatre derniers mois de la saison. C'est ça que ça va prendre. C'est,
ouais.
C'est simple. Il y a plein d'autres. Il y a un paquet d'autres affaires qu'il faut qu'ils arrivent, là. C'est sûr que le Canadien doit retrouver leur façon de jouer, leur identité, tout ce qui est bon dans leur système. Il faut qu'ils jouent leur système. Il y a toutes sortes de choses que tu as besoin. Puis tu peux faire une liste de tous les joueurs qui ont besoin de jouer d'une façon intelligente. Mais tout commence avec lui. Et c'est juste la réalité de sa vie, de sa position, de sa position non seulement sur la glace, mais sa position dans l'organisation qui fait en sorte que si le Canadien espère faire les séries, il va falloir que lui, il devienne, sinon le, mais un des meilleurs gardiens de la Ligue du mois de décembre jusqu'à la fin du calendrier en avril.
C'était un des objectifs en allant chercher Keith Kincaid, qui avait gardé 41 matchs à chacune des deux dernières saisons, de pouvoir donner plus de soirées de repos à Price, puis de faire en sorte que on puisse le Canadien puisse lui permettre de trouver son rythme, de prendre un répit quand c'est nécessaire, puis aussi de pouvoir, si jamais il y a des mauvaises sorties, de pouvoir se corriger. Sauf que je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'affiche de Marc Bergevin au niveau de l'évaluation, peut-être la sienne, et aussi, disons-le, peut-être de Stéphane Waite, d'avoir fait confiance à un gardien qui a si rapidement perdu la cote au sein de l'organisation puis auprès de son entraîneur. Parce que là, on se retrouve dans un cercle vicieux où il faut coûte que coûte s'en remettre à Price, même dans un état qui est loin d'être optimum dans son cas, mais il va falloir qu'on continue de l'utiliser outrageusement au lieu de faire en sorte qu'on puisse le maintenir à 50 ou 55 départs, disons 55 départs, non, comme c'était
déjà,
l'objectif.
C'est déjà fini, là.
Alors,
c'est déjà oublié, là.
On est loin du compte, là.
Ben, c'est déjà, on peut dire, le 29 novembre, alors, deux mois, même pas deux mois de la saison, puis on peut déjà dire que ça arrivera pas.
Oui.
C'est certain que Price va jouer un minimum de 65 matchs, peut-être même plus. Parce que, et une chose qu'il faut rappeler quand même, que l'année passée, quand Price a terminé la saison, je pense que c'était 26 en 27 matchs ou quelque chose comme ça,
oui.
Ses chiffres pendant ces matchs-là étaient vraiment, vraiment bonnes. Là. C'est pas comme il a mal joué à cause du fait qu'il était surtaxé. La seule chose, c'était que si jamais le Canadien était capable de se rendre en série, t'aurais eu un gardien qui avait pas arrêté de jouer depuis deux mois, puis qui était vraiment pas en forme en arrivant en série. Mais là, avec la situation actuelle, le Canadien peut pas planifier pour ce que Carey Price va faire en série, parce que faire les séries, ça va prendre Carey Price qui joue pas tous les matchs,
ouais,
mais qui va jouer une grande majorité des matchs.
Il y a L'éternel problème avec le Canadien, c'est de voir de quelle manière l'équipe peut arriver à être compétitive à court terme tout en continuant de bâtir pour avoir un succès à long terme. Puis il y a des... on dirait que ces deux objectifs-là s'entrechoquent souvent. Puis là, en ce moment, on est dans un de ces moments-là parce que le Canadien doit probablement aller chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit trouver un gardien de but substitut de meilleure qualité, que ce soit trouver du renfort en défensive. Je pense que ça, c'est assez criant. Puis est-ce qu'à un moment donné, on va dire on va avoir besoin aussi de quelqu'un pour améliorer l'avantage numérique? Je ne sais trop. Sauf que il y a des zones où le Canadien peut s'améliorer cette année, mais ça impliquerait plus le joueur est de qualité que tu vas chercher, plus ça impliquerait d'hypothéquer l'avenir. Alors, dans les façons d'améliorer l'équipe pour qu'elle soit meilleure et qu'elle participe aux séries cette année, est-ce qu'il y a une de ces façons-là qui pourrait permettre aux Canadiens de s'améliorer sans que ça leur coûte des espoirs de premier plan?
Oui, mais dans le fond, oui, c'est possible. Je sais pas à quel point c'est réaliste, mais c'est possible. Tu sais, Jesperi Kotkaniemi pourrait se mettre à pourrait retrouver sa confiance puis devenir vraiment un joueur qui a plus d'impact sur un match. Parce qu'en ce moment, même s'il a comme quand même, je dirais, joué pas si mal contre les Devils,
ouais.
En fait, il a joué quand même assez bien. Si lui est capable de trouver un autre coach, si Nick Suzuki est capable de trouver un coach, si Cale Fleury tout d'un coup commence à faire moins d'erreurs puis joue avec confiance, puis tu sais, ce sont des joueurs qui Les joueurs qui sont encore en train de s'améliorer, sont encore en apprentissage d'une certaine façon dans la Ligue nationale, s'ils sont capables de s'améliorer dans cet environnement-là à un rythme un peu plus rapide, ça, c'est une façon.
Mm-hmm.
L'autre façon, c'est que les joueurs actuels, tu sais, comme Jeff Petrie, non seulement qui joue pas comme il joue maintenant, mais trouve un autre coach. Le coach qu'on a vu l'année passée quand Shea Weber était pas là,
ouais.
Si ce Jeff Petrie-là revient, tout d'un coup, ça change la donne. Mm-hmm. C'est comme si Max Domi redevient le joueur qu'on a vu l'année passée, ça change la donne. Alors, il y a beaucoup de si là-dedans. Et sont à des différents niveaux de...
Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le bon vieux cliché, la réponse est dans le vestiaire. C'est-à-dire que c'est à chacun d'essayer de retrouver...
Comment le faire sans donner des prospects? C'est la seule façon, c'est que les joueurs dans le vestiaire le font, parce que si tu veux aller chercher de l'aide, et c'est ça l'affaire, c'est que Marc Bergevin est en train de... Il s'assoit avec tous les atouts nécessaires d'aller chercher de l'aide dans le marché, même si c'est difficile de faire des échanges à ce moment-là de l'année. Mais il y a de l'espace sur la masse salariale, il y a des prospects en masse,
oui.
Il y a des choix au repêchage en masse, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher de l'aide immédiate, puis je me demande à quel point Marc Bergevin commence à être tenté d'utiliser ces atouts-là pour aider cette équipe-là, parce que cette équipe-là, leur but, c'est de faire les séries. C'est pas pour se battre pour les séries en fin de saison, c'est d'être là, de jouer en série cette saison. Alors, à quel point est-ce que Marc Bergevin veut s'assurer que ce qu'il voit en ce moment, pour intervenir en ce moment, à cause du fait que le Canadien est juste incapable de jouer de la façon qu'ils sont habitués à jouer, à quel point Marc Bergevin sent la pression de faire les séries et sent la pression d'agir pour faire en sorte qu'ils font les séries, parce que il va avoir une évaluation au complet, je pense, à la fin de la saison. Mais s'il les rate, ce serait quoi? 4 en 5 ans?
C'est ça.
4 fois en 5 ans. Pour normalement, un PG, c'est jamais une bonne chose. Alors,
non.
Je me demande à quel point il se sent une certaine pression, une certaine responsabilité d'agir tout de suite, parce que c'est difficile à voir la piste de solution pour cette équipe-là en ce moment.
Absolument. Tu parlais, tu disais si Kotkaniemi, Suzuki, Fleury augmentaient leur niveau de jeu, etc. Je suis toujours intrigué, puis je suis pas sûr que je pourrais obtenir de bonnes réponses de la part de jeunes joueurs ou de recrues à ce sujet-là, mais ça doit être assez particulier pour un jeune joueur qui arrive dans la Ligue nationale de voir des vétérans perdre leur confiance.
Ouais.
Ça doit être assez impressionnant, tu sais, de dire, ouais, un instant, là, t'as tel gars, là, que je regarde depuis des années, qui est un, tu sais, qui est un, dans certains cas, un modèle, ou tel autre est une vedette, ou tel autre, bon, peu importe. C'est des joueurs que les plus jeunes regardent depuis longtemps. Ils ont leur idée de fait sur eux. Ils les côtoient comme coéquipiers, puis dans certains cas, ça a sûrement été validé à quel point c'est des personnes qui sont dignes d'être suivies. Puis, à un moment donné, le câble lâche complètement et ces gars-là, ces vétérans-là perdent confiance. Ça doit être une drôle d'expérience pour des jeunes qui arrivent puis qui, tu sais, qu'eux autres, ils sont encore en train de se familiariser avec cet environnement-là.
Ben, je le compare un peu. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai devenu un parent, c'est à quel point je savais pas des choses. Et je me rappelais que quand j'étais enfant, je pensais que mes parents savaient tout.
Oui.
Et tout d'un coup, toi, t'es un parent puis t'es comme, hey, moi, je sais pas plus que je savais comme il y a un an, deux ans, là. Moi, il y a plein de choses que je sais pas quoi faire, je sais pas comment le faire. Puis tu te rends compte qu'effectivement, quand t'étais jeune, tes parents étaient le même. Ils faisaient le mieux qu'ils pouvaient.
Ah ouais.
Mais toute l'impression qu'ils donnaient à moi, comme enfant, c'était pas vrai. C'était juste, il y avait les mêmes insécurités que moi j'ai en ce moment. Il y a tout ça. Alors, j'imagine que c'est similaire pour ces jeunes-là qui arrivent dans la Ligue nationale, puis ont une idée de, tu sais, comment est-ce que Shea Weber se comporte à chaque jour, tu sais,
ouais.
J'ai hâte de le voir. Puis là, tout d'un coup, de voir que, tu sais, Shea Weber se frustre, ou Shea Weber, il connaît des problèmes, il y a des insécurités,
ouais.
Tu sais, j'imagine que c'est un peu le même feeling. Et j'imagine que ce feeling-là doit leur aider de sentir comme un joueur de la Ligue nationale, de savoir que ces vétérans-là connaît les mêmes problèmes, ont les mêmes inquiétudes, peut-être pas exactement les mêmes inquiétudes, mais ils en ont des inquiétudes.
Ils en ont, ben ouais.
Et ça doit leur aider à se sentir un peu plus confortable dans la Ligue nationale, en sachant que ce sont pas des Superman, là,
c'est pas eux. Le problème. Puis s'ils se sentent insécures ou qui ont de la difficulté à s'insérer d'une manière ou l'autre, c'est pas quelque chose qui leur est personnel. C'est davantage, c'est même des gars qui ça fait 10-15 ans qu'ils sont dans la Ligue nationale vont être confrontés à des problèmes du même ordre.
Alors en espérant pour le Canadien que non seulement les jeunes mais les vétérans qui sont capables de vraiment se débarrasser de ces insécurités-là, puis prendre un peu de confiance, puis prendre les moyens pour jouer d'une façon intelligente, et le trouve très rapidement parce que cette équipe-là, déjà le défi est énorme pour faire les séries à cause de cette séquence de 6 défaites-là. Mais deux autres défaites vont le rendre encore plus gros.
Oui. Bon, et en terminant, on échange beaucoup avec les lecteurs, que ce soit sur Twitter, sur Athletic ou encore, bon, on peut écouter la radio, les lignes ouvertes et quoi que ce soit. Les amateurs commencent à être nombreux à réclamer le départ de Claude Julien. Moi, j'ai tendance à être... Je veux pas avoir l'air d'un gars qui prend un parti pris, mais j'aurais tendance à être un allié de Claude Julien en ce sens que je le vois comme étant vraiment une partie de la solution plus que du problème. Mais des fois, aux grands mots, les grands moyens, jusqu'à quel point Claude Julien est-il en danger ou en sécurité en son poste à l'heure actuelle?
Ben, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Tu sais, la pression que Marc Bergevin sent pour agir. Oui. Dans un monde idéal, il poserait ce geste-là sur le marché des transactions. Mais à un moment donné, il y a une certaine limite à ce qu'il peut faire comme DG. Il y a vraiment deux ou trois options qui sont ouvertes à lui. Une de ces options-là, puis d'une certaine façon, l'option la plus facile, c'est de congédier le coach.
Ouais.
Mais je suis de l'avis que ce qui fait en sorte que le Canadien soit aussi compétitif aussi rapidement, peut-être même plus rapidement que Marc Bergevin s'attendait après le désastre d'il y a deux ans, c'est à cause de Claude Julien, c'est à cause du système qu'il a mis en place l'an passé, avec l'aide de Dominique Ducharme et tous ces adjoints qui ont contribué à formuler un système que les Bruins de Boston ont plus ou moins adopté quand Claude Julien était congédié. C'est son rôle là-dedans a fait en sorte que le Canadien joue. Tu sais, ils sont capables de rendre ce qu'ils ont meilleur. Les joueurs qu'ils ont sous la main sont meilleurs à cause du système que Claude Julien a mis en place.
Exact.
Et que Claude Julien gère. Alors, comment tu peux enlever l'entraîneur qui est responsable pour ce système-là? Quand la meilleure chance que tu as pour sortir de ça, c'est vraiment de commencer à rejouer ce système.
Oui, c'est ça. Puis c'est pas comme si les joueurs avaient cessé d'écouter leur coach. Là, on n'est pas dans une... tu sais, peut-être qu'il y a du monde qui ont encore en tête le congédiement de Mike Babcock à Toronto, mais on n'est pas dans une situation où les gars en ont soupé de leur coach. Là.
C'est pas la même chose.
Non. Alors, mais en même temps, écoute, c'est ça.
Mais ça tombe, la responsabilité tombe sur lui quand même. Là.
Bon, oui,
c'est à la fin de la journée, quand tu es un entraîneur-chef dans la Ligue nationale, c'est les résultats qui comptent. Puis il n'y en a pas en ce moment.
Non.
Alors, la possibilité existe.
Bon, bien, écoute, on va suivre ça avec grand intérêt. Donc, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Écoutez, en ce vendredi, c'est le Black Friday, le vendredi fou aujourd'hui. Alors, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit au athletic.com, on vous invite à le faire parce que aujourd'hui seulement, il y a une vente de 50% de rabais sur les abonnements annuels sur athletic.com. Si vous, j'imagine qu'après toutes ces semaines et ces mois à nous écouter, vous êtes familier avec Athletic, mais pour ceux qui ne le sont pas, écoutez, il y a, je dirais, des centaines de journalistes qui couvrent les quatre sports professionnels, en fait les cinq parce qu'on a la MLS également, mais tous les sports professionnels en Amérique du Nord sont couverts, la Premier League en Angleterre également. Donc c'est un contenu extrêmement vaste, à peu près infini de sports auxquels vous avez accès. Le site et notre application sont sans publicité, donc pour du contenu vraiment là, exhaustif et plus en profondeur que ce qu'on peut voir ailleurs, ben ça vaut la peine. Puis en ce moment, c'est ça, comme je vous disais, vous pouvez vous abonner à 50% de rabais. Ben voilà.
Dans le fond, c'est juste en cliquant sur n'importe quel texte que tu vois sur athletic.com. Si vous n'êtes pas abonné, ça va vous rendre sur une page qui offre ce rabais de 50%. Aujourd'hui seulement, vendredi, oui. Le vendredi fou, comme on dit, c'est une vente annuelle qu'on fait, puis c'est le meilleur rabais que vous allez avoir toute l'année pour s'abonner pour un an à athletic.com.
Bon, mon texte d'aujourd'hui portait sur, de ce matin, portait sur le fait que le Canadien, s'il devait sacrifier ou hypothéquer des espoirs, devait se tourner davantage en défense que de penser à Taylor Hall, qui était en visite hier. Et toi,
Moi, mon texte hier soir, c'est juste, en fait, beaucoup ce qu'on vient de dire sur le podcast, c'est surtout le fait que c'était un rappel aux Canadiens de pourquoi, quand ils sont bons, pourquoi ils sont bons. C'est qu'est-ce qui fait de bien, qui fait en sorte qu'ils sont capables de gagner des matchs, ils sont capables d'être des adversaires coriaces, des adversaires qui sont difficiles à affronter. C'était un petit rappel et une démonstration à quel point ils sont pas en train de respecter ça.
Ouais. Bon, ben c'est bon. On a des features assez intéressants et assez amusants qui s'en viennent au courant des prochains jours. Donc, restez à l'écoute à ce niveau-là. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, les abonnés de l'Athlétique, on vous retrouve lundi pour un autre podcast. Bye-bye.